Bonsoir, c'est le magazine sur Radio B, une émission consacrée à l'écriture sous toutes ses formes et sous tous ses formats, que ce soit de livres, d'ateliers, de communication, de formation et même d'animation radio. Écrire, lire, broder, témoigner, raconter, imaginer, romancer, transformer, publier, autant pour elle qu'en direction des autres. Comme le petit prince de Saint-Exupéry apprivoise le renard, notre invitée de ce soir apprivoise l'écriture. Elle voyage à travers les rencontres qu'elle a faites, de Paris au Pradet en passant par le Piémont italien, le Jura, l'Ain, Toulon ou Villefranche-sur-Saône. Elle n'a jamais cessé d'écrire et de lire. Les mots sont pour elle l'occasion d'échanger avec le monde qui l'entoure. Coach en écriture, animatrice d'ateliers et d'écriture, rédactrice, formatrice, présidente de concours littéraires, animatrice et chroniqueuse radio, coordinatrice de l'association Écriture et Papyrus, partenaire d'artistes, elle a même le temps d'être écrivaine. Son dernier roman, Fat Tom, est sorti le 12 janvier 2023 aux éditions du Caïman. Un roman noir où les livres se frayent un chemin entre une jeunesse perdue et un destin fatal, ces miroirs du social qui mettent en scène des gens ordinaires, mais terriblement attachants. Et si les livres sauvaient le monde ? Pour nous en convaincre, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'apprivoiseuse d'écriture caladoise, Sylvie Calais. Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'ai parlé de caladoise à votre propos. Ne parler que de Villefranche-sur-Saône serait hyper réducteur. Entre Paris, Toulon, le Pays de Gex et Bellegarde-sur-Valserine, aujourd'hui Valserone, sans oublier le Pradet et vos origines italiennes, corréziennes et jurassiennes, votre cœur balance. Citoyenne du monde, citoyenne d'un monde, le vôtre en l'occurrence, serait plus approprié.
Oui, beaucoup plus approprié, je pense.
Ouais. Alors, vos origines, vos pérégrinations, vos rencontres, votre entourage influent sur votre écriture ?
Tout à fait, oui, je pense qu'on se nourrit des rencontres qu'on fait.
Ouais. On écrit à Toulon comme on écrit à Villefranche-sur-Saône ?
Alors, j'ai peu écrit à Toulon, sinon quand j'étais petite, j'ai écrit des romans de quelques pages, 3 ou 4 pages. Et ensuite, j'ai basculé vers une autre passion qui était le théâtre. Donc au collège, au lycée, à Toulon, j'ai fait beaucoup de théâtre, dans le même club théâtre d'ailleurs que Charles Berling, qui a repris un théâtre à Toulon.
Alors je parlais de vos origines et de vos débuts dans la découverte de l'écriture. Alors quelle place avait la lecture et l'écriture dans votre famille lorsque vous étiez enfant ?
Lorsque j'étais enfant, petit enfant, j'habitais à Paris, dans un tout petit espace. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent pour s'acheter des livres, ni de temps pour lire. Mais mon père nous racontait beaucoup d'histoires à mon frère et à moi. Il s'occupait déjà beaucoup de nous, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Et il inventait des histoires. Et lui a été lecteur à partir de 30 ans, je crois, parce qu'il s'est mis à... Enfin, il a dû travailler à 14 ans. Il a pas eu le choix. Il n'a pas pu poursuivre des études comme il l'aurait voulu. À 30 ans, il s'est mis à lire beaucoup de polars, de séries noires qu'il achetait aux puces dans les brocantes. Et ensuite, je pense que vers l'âge de 40 ans, il s'est passionné pour les ouvrages philosophiques. Et il a accumulé une collection importante d'ouvrages philosophiques. Toujours des livres achetés pas cher, aux puces, dans les bouquineries. Et donc, j'ai vécu à Toulon dans une petite maison avec des livres pratiquement dans toutes les pièces. Donc, c'est vrai que voilà, c'était un peu un cocon de livres dans lequel j'ai évolué. Et pour moi, la lecture a été vraiment une évasion. Voilà, une évasion... vivre d'autres vies que la mienne, comme le dit si bien Emmanuel Carrère. très vite, j'ai dévoré les livres. Alors, on pouvait en emprunter que 3 par semaine à la bibliothèque, ce qui me frustrait beaucoup, ce qui explique qu'aujourd'hui, j'ai du mal à aller en bibliothèque parce que non seulement on est restreint, et en plus, il faut rendre les livres. Et voilà, et mon plus grand souhait quand j'étais petite, c'était, qui n'est jamais arrivé, c'était de recevoir une caisse de livres à Noël.
Alors, quels étaient vos artistes et genres de chevet?
Quand j'étais petite?
Oui.
Ah bah, Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rouge, Rouge et Or. J'ai fait les classiques. Hein. J'étais avec le Club des Cinq, tous les livres de Enid Blyton. Mmh. J'étais avec les... Non, les Alice, j'aimais moins. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais emprunter qui était a priori de mon âge, ouais. À la bibliothèque. Et je vivais vraiment les aventures avec les personnages.
Et après, alors,
alors avec le après, temps après, j'ai découvert, je crois que c'est en troisième. Alors, je n'aimais pas qu'on m'impose des livres à l'école, parce que pour moi, c'était vraiment un espace de liberté, puis c'était mon territoire à moi. Mais tout de même, grâce à l'école, j'ai découvert Pagnol. Alors, j'étais dans le sud, hein, Pagnol était très en vogue. Puis, je l'ai joué au théâtre aussi. Et puis, j'ai découvert Émile Zola. Émile Zola, ça a été une de mes premières révélations. Et du coup, j'ai lu toute la série des Rougon-Macquart après cette découverte. J'aime bien les grandes épopées, les grandes sagas, ouais, qui présentent des familles sur plusieurs générations.
Mmh. Et vous avez toujours eu envie, par contre, de décrire, que ce soit pour vous ou pour les autres, vous
Alors, j'ai eu envie d'écrire quand j'étais petite, puisque je lisais, donc j'avais envie d'écrire moi aussi pour inventer des histoires. À l'adolescence, classiquement, j'ai plutôt écrit des poèmes. Mmh. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai basculé vers le théâtre, donc j'ai un peu arrêté l'écriture. Et quand je suis arrivée à Villefranche en 2000, j'ai fait une formation d'animatrice d'atelier d'écriture. Et en parallèle, j'ai fait plusieurs stages comme participante. Donc des stages d'écriture, stages d'écriture du roman. Et c'est là que j'ai replongé, on va dire, dans la marmite de l'écriture.
Et à l'école, le français était forcément votre matière de prédilection?
Voilà. Ouais. Beaucoup plus que les maths ou la géographie. Effectivement, et puis j'ai eu la chance d'avoir des profs de français merveilleuses.
Mm-hmm. Alors, chez vous, l'écriture se fait avec un stylo ou avec un clavier d'ordinateur?
Alors, elle se fait avec tout. Elle se fait d'abord avec un stylo ou un crayon papier parce que... Voilà, je pense qu'on n'a pas le même rapport quand on passe directement par l'ordinateur. On est déjà beaucoup plus sur la forme, sur quelque chose de formaté. Tandis que instinctivement, je vais, comment dire, le côté créatif, ça va être via le papier, le stylo. Mais ensuite, pour des raisons de praticité ou de commodité, je saisis à l'ordinateur pour pouvoir copier, coller, j'interroge chaque mot, je suis très laborieuse moi quand j'écris. je relis mes phrases et j'aime bien pouvoir conserver plusieurs versions, pouvoir basculer les phrases dans un sens, dans l'autre. Donc c'est vrai que l'ordinateur permet plus ça quand même que le papier et le stylo. Mais au départ, c'est comme en atelier d'écriture, mon premier jet, c'est toujours sur une feuille. Et en plus, j'aime beaucoup, je trouve ça très sensuel d'écrire sur du papier avec un stylo qui me plaît. Enfin, j'aime beaucoup ça.
Quand est arrivée l'écriture du point de vue, je dirais, entre guillemets, professionnel, vous avez toujours eu envie d'en faire ce que vous pourrez appeler un métier?
Disons que je ne savais pas trop au départ. J'ai fait cette formation d'animatrice à l'atelier d'écriture avec Aleph Écriture à Lyon, qui est quand même... connue dans le milieu des ateliers d'écriture. J'ai eu la chance d'être embauchée pendant 5 ans à Aleph Écriture et de bénéficier de réunions pédagogiques qui étaient à l'époque présidées par Fabienne Svatli, qui est écrivaine, puis par Alain André, et écrivain également et directeur d'Aleph Écriture. Et en parallèle, on m'a demandé aussi de faire des formations aux écrits professionnels. Donc, je me suis lancée, je ne connaissais pas bien et je me suis un peu formée sur le terrain. Ensuite, j'ai repassé un diplôme, mais au départ, c'était sur le terrain. Et du coup, je suis intervenue dans la France entière pour animer des formations aux écrits professionnels dans le domaine médico-social. Donc, j'ai été référente d'APF Formation à l'Association des paralysés de France. Et puis également pour les écrits administratifs avec le CNFPT à Lyon. Donc ça, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années, ce qui était quand même assez lucratif, très prenant, mais assez lucratif. Et en parallèle aussi, j'ai créé mon association à Villefranche-sur-Saône, Écriture et Papyrus, en 2002. Donc avec tout ça, j'ai réussi à dégager un petit revenu grâce à l'écriture, ou en tout cas aux formations, aux animations liées à l'écriture.
Mmh. Donc, sur votre site internet, hein, atout-écriture.fr, il est indiqué, hein, apprivoiser l'écriture sous toutes ses formes. Vous êtes écrivaine, coach en écriture, animatrice d'ateliers d'écriture, rédactrice com, formatrice, mais aussi animatrice radio, lectrice, relectrice et correctrice, présidente de jury et remiseuse de prix, même si ce n'est pas tout en même temps. Pensez-vous avoir totalement apprivoisé l'écriture ou, faute d'envie ou de temps, il manque encore quelques cordes à votre arc?
Oui, il en manque toujours, puis il manque beaucoup de temps pour lire aussi, parce qu'on se nourrit aussi des auteurs et des autrices qu'on lit.
Est-ce qu'il y a encore des métiers liés à l'écriture?
Des métiers liés à l'écriture, ouais. Moi j'aurais bien aimé travailler aussi dans la com, dans la pub, voilà, pour m'essayer à une écriture de slogans, de choses comme ça. En plus c'est beaucoup mieux payé, ça aurait été sympathique. Oui, je pense que je pourrais toujours trouver des choses qui manquent, mais là, mon emploi du temps est déjà bien rempli avec la gestion de l'association, avec les accompagnements à l'écriture de romans, les diagnostics de romans aussi que je propose, les accompagnements à l'écriture personnalisée, les accompagnements personnalisés à l'écriture autobiographique, plus ma propre écriture. Là, je crois que mon temps est bien pris.
Vous êtes coach en écriture?
Oui, voilà.
En quoi consiste cette activité? Et quel public visez-vous?
En fait, j'emploie le mot coach comme accompagnatrice à l'écriture. Et c'est peut-être dans le cadre d'entreprises, d'associations, mais c'est souvent pour des particuliers, en fait, des particuliers qui ont un projet d'écriture ou un chantier d'écriture en cours, que je peux aider, aiguiller, accompagner en fonction de leurs demandes, de leurs attentes et de ce que moi je perçois aussi comme besoin, bien sûr.
Vous animez des ateliers d'écriture pour les adultes et pour les scolaires. Alors ce sont deux publics bien différents où il y a quelques similitudes quand même. Dans les deux cas, le besoin de création est présent.
Oui, il y a des similitudes, ne serait-ce par rapport à moi. Il faut que je crée une dynamique de groupe. Voilà, j'ai beaucoup de préparation. Et puis, effectivement, il y a une similitude dans l'idée de dire à ces personnes-là, que ce soit des adultes ou des élèves, d'être dans le lâcher-prise, d'oser la créativité. Parce que souvent, ce n'est pas qu'on n'a pas d'imagination ou qu'on n'est pas créatif, c'est qu'on n'ose pas parce qu'on a peur du jugement de valeur, de la note, de ne pas faire comme il faut, de ne pas avoir bien compris. Donc, moi, c'est vraiment de leur apprendre, entre guillemets, parce que ce n'est pas que je leur apprends, mais de les diriger vers ça, vers ce lâcher-prise-là.
Vous êtes également formatrice en communication écrite et animation. Vous avez également un public en face de vous.
Oui.
Il y a souvent une notion qui revient chez vous, c'est celle de l'échange. C'est bon? Oui,
oui, oui, hein, l'échange est important, bien sûr.
Donc on est loin de la posture de l'écrivaine seule avec son stylo ou son clavier. Le partage en direct avec l'autre, c'est aussi cela l'écriture.
Alors, c'est aussi cela l'écriture, mais ceci dit, quand je suis dans l'écriture d'un livre, là, je suis vraiment seule avec moi-même, avec mes doutes, mes questions. Mais
quand vous avez un public en face de vous.
Mais quand j'ai un public en face de moi, là, c'est différent, c'est une transmission plutôt. Il entre aussi de la pédagogie, et là, c'est vraiment autre chose. En tout cas, quand je suis formatrice, avec un objectif plus professionnel, du coup, et moins créatif, j'essaye quand même que les gens aillent vers cette... ne négligent pas cette part créative d'eux-mêmes, et après, on va... vers quelque chose de plus technique, mais comme quand j'anime le stage écrire un roman, où là aussi on peut aller vers quelque chose d'un peu plus technique, puisque un roman c'est aussi une construction en soi.
Alors toujours sur votre site internet, il est bien ce site, atout-écriture.fr, il est écrit l'écriture est parole et silence à la fois. Alors la parole, c'est lorsque vous intervenez pour une formation ou un atelier. Le silence, c'est lorsque vous écrivez des romans ou des poèmes.
Voilà, c'est le silence intérieur. Mais effectivement, la parole vient après dans l'échange, puisque voilà, j'écris aussi, je ne vais pas me mentir, pour être lu.
Ouais. Donc depuis 2002, vous publiez des livres, c'est ça, hein?
Non, 2005.
2005,
pardon.
J'ai lu 2002.
Non, depuis 2002, j'ai créé l'association Écriture et Papyrus, mais le premier livre publié, c'est en 2005.
Bon, alors depuis 2005, vous publiez des livres, que ce soit des poèmes, des romans, des recueils humoristiques, des récits, des portraits ou des témoignages. Avant 2005, vous gardiez vos écrits pour vous?
Avant 2005, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 30 ans de théâtre amateur. J'étais beaucoup dans le théâtre. Et finalement, j'ai peu écrit, sinon des fragments, des poèmes, mais oui, que je n'ai pas diffusés, en fait.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'en 2005, vous avez décidé de publier vos écrits, vos proches, mais aussi votre famille vous l'ont réclamé ?
Ah, pas du tout. En fait, j'ai suivi un stage d'écriture de roman avec Olivier Targovla, qui était journaliste et animateur à LF Écriture, et écrivain aussi. Et j'ai suivi 2 semaines de stage avec lui, et j'avais mis quelque chose en route, en chantier, on va dire. Et à un moment, j'ai repris, je me suis dit, allez, je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc, j'en ai fait un roman que j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Alors, comme ça se passait dans le Sud, bon, je n'ai pas visé très haut, j'ai envoyé à des petites maisons d'édition dans le Sud. Et j'ai eu la surprise, après quelques lettres de refus type, mais 6-7 mois après, de recevoir un appel des Presses du Midi, qui est une maison d'édition à Toulon, de M. Chevassu à l'époque, hein, qui est décédé maintenant, qui m'a dit « Moi, votre roman me plaît, on vous le prend ». Donc voilà, je suis un peu tombée des nues, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais en train de faire une crème anglaise que j'ai ratée. Et, à partir de là, c'est vrai qu'ils ont publié tout ce que j'ai écrit. Jusqu'à ce que je change après d'éditeur pour aller vers les éditions du Poutan et dernièrement aux éditions du Caïman. Mais jusqu'en 2017, c'est vrai que j'ai pas eu de résistance, on va dire, puisque les Presses du Midi ont publié tous mes livres.
Alors, comment passe-t-on d'un poème à un roman ou d'un recueil humoristique à un portrait ? C'est facile de changer de format et de genre ?
Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Comme j'ai dit, pour moi, l'écriture, c'est un espace de liberté. Je n'ai pas envie qu'on m'enferme dans des cases, qu'on dise « Ah non, mais elle sait écrire des portraits » ou « Elle a une écriture journalistique, mais ou, c'est pas une romancière » ou l'inverse. Même là, mon dernier, c'est un roman noir, mais la frontière est poreuse entre roman noir, voire polar, même si là, ce n'est pas vraiment un polar. Moi, j'ai vraiment envie d'explorer toutes sortes d'écritures. C'est ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de m'interdire quoi que ce soit, même si ce n'est pas une bonne stratégie marketing, je ne sais pas. j'ai vraiment envie... parfois, ça peut être plein d'humour, parfois beaucoup plus sérieux. Les portraits, j'aime ça. Beaucoup ça aussi pour donner à voir une certaine réalité, avec ma vision des choses, bien entendu. Mais je trouve que tous les genres d'écriture ont leur place.
Et on passe facilement d'une écriture d'un poème à une écriture d'un roman.
Alors moi, oui. Après, je ne parle que pour moi. Justement, moi, j'aime bien pas m'enfermer dans un genre, dans un style. Ouais. Donc, je passe d'autant plus facilement que c'est volontaire.
Ouais. Alors, chez vous, il y a quelque part, bon, je trouve, une impression d'hyperactivité rédactionnelle. Alors, certains, ça, le sport, vous, c'est l'écriture, c'est presque une drogue.
Je ne suis pas sûre, parce que je peux rester un mois sans écrire parfois, et notamment quand je suis en vacances dans le Sud, faire des balades, nager, faire des soirées. Mais c'est quelque chose qui revient, oui, c'est plutôt cyclique. On va dire que c'est une drogue cyclique. Voilà, c'est pas... je ne suis pas addict. Mais par contre, oui, effectivement, à un moment, ça revient, et là, il faut que je m'y remette. Voilà, et ça m'appelle, on va dire. Ouais.
Alors, on parlait de romans à ce jour, vous en avez écrit 9. Je l'ai compté. Hein.
Oui, alors moi, je ne les ai pas comptés. Je suis désolée.
Donc, dont un roman noir, Fatum, oui. Sorti le 12 janvier 2023 aux éditions du Caïman.
Oui.
Les 8 premiers sont dans quelle veine ? Pas forcément noir, pas forcément polar ?
Non, il y a eu des romans, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Il y a eu des polars humoristiques. Il y a eu une trilogie de polars humoristiques. Le dernier, Saint-Uranie, priez pour nous, plus social. Voilà, il parle d'une femme qui a un certain caractère, mais qui est coupée de sa famille, qui a peu de revenus, qui se retrouve à la rue, parce qu'on se retrouve très vite à la rue. Donc, c'est par rapport à des thèmes aussi qui m'intéressent. Il y a eu aussi un ouvrage de commande, Les Murs Noirs, qui retrace la vie des jeunes filles incurables d'aînés à Lyon. Donc là, c'est un ouvrage écrit à la suite d'ateliers de parole et d'ateliers mémoire et de recherche dans les archives. Donc un gros travail de restitution et de mise en livre, voilà, pour donner à voir la vie de ces femmes que j'ai rencontrées, qui m'ont beaucoup touchée et qui sont restées internées toute leur vie dans cet établissement. Pas forcément un roman noir, même si mon deuxième roman, Le sang des pierres, je pense que bon, il a été étiqueté roman, mais je pense que roman noir aurait pu lui convenir aussi.
Alors, l'humour est très présent dans vos écrits. La preuve, avec, vous le disiez, avec une trilogie de polars humoristiques, mais aussi des sujets plus graves comme dans Les mots derrière les murs. Alors, c'est facile de mélanger gravité et légèreté. D'abord, est-ce que vous les mélangez ? Peut-on les mélanger ?
Alors, c'est pas que je les mélange, mais je pense que je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai envie de rigoler, des fois, j'ai envie de pleurer. Et que, bah voilà, ça se traduit par mon écriture, via mon écriture. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai envie de choses plus légères et j'ai envie d'écrire des choses plus légères. Et puis, jouer avec les mots, jouer avec les sons, voilà, dans le côté aussi humoristique, c'est aussi très agréable. Et puis, parfois, j'ai envie de parler de choses qui me touchent, qu'elles soient sociales ou psychologiques. Et là, c'est plus grave. Mmh.
Alors, je parlais de votre nouveau roman Fatum, sorti le 12 janvier 2023. Après les éditions, donc les Presses du Midi et les éditions du Poutan, place aux éditions du Caïman, une maison d'édition stéphanoise. Alors, pour un roman noir, il vous fallait un éditeur de romans noirs ou vous aviez besoin de changer pour avancer dans votre carrière d'écrivaine ?
J'avais envie d'écrire un roman noir. Et voilà, moi j'avais lu déjà pas mal d'ouvrages des éditions du Caïman. J'aimais beaucoup leur ligne éditoriale. Donc effectivement, je l'ai adressé avec beaucoup d'espoir à Jean-Louis Nogaro à Saint-Étienne. Et j'étais très, très heureuse déjà qu'il le prenne en compte, qu'il le présente à son comité de lecture. Et puis que finalement, il le sélectionne. Mais tout ça s'est passé, en tout cas, là, je pense que c'est en octobre 2021 qu'il m'a appris que mon livre était retenu. Et voilà, il m'a bien dit, moi, j'ai pas de fenêtre de tir pour le faire paraître avant janvier 2023. Donc tout ça pour dire que c'est aussi une école de patience.
Alors comment avez-vous travaillé avec les éditions du Caïman et Jean-Louis Nogaro, son fondateur ? Que vous a apporté son regard extérieur ?
Ben, son regard était très précieux parce que c'est un éditeur qui... il a vraiment relu le livre et il m'a fait des remarques très pertinentes. Ensuite, il y a aussi ses relecteurs, correcteurs, Daniel Akakpo et Philippe Paternoli, qui aussi ont relu le livre et m'ont fait des remarques très pertinentes. Alors à tout niveau, hein, que ce soit au niveau du fond, de la forme, des incohérences, des coquilles... Donc, ce qui m'a permis de retravailler le livre. Je voulais quand même préciser qu'avant ça, j'ai eu deux relecteurs, Jean-Michel Debilly, mon mari, et puis Bertrand Lamure, libraire à Villefranche, dont les retours m'ont aussi été précieux. Parce que je pense qu'à un moment, un livre, ça devient un travail d'équipe, c'est plus un travail solitaire. Et c'est très agréable, c'est très, très chronophage aussi, parce qu'il faut se remettre dans le livre. Et voilà, on modifie des choses, il faut faire attention que ce qu'on a modifié ne perturbe pas l'équilibre du paragraphe précédent ou du paragraphe suivant, que tout reste cohérent. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce travail avec les éditions du Caïman. Il y a vraiment un sérieux voilà, dans leur relecture. C'était des relectures très, très pointues de la part des trois personnes qui m'ont relu et vraiment, je les en remercie.
Alors, votre roman s'appelle Fatum, hein, emprunté au latin du même nom qui veut dire destin, fatalité. Vous racontez l'histoire de trois adolescents issus des quartiers et qui cherchent leur voie. Alors Samia rêve de devenir écrivaine, tandis que son frère Sohan est attiré par l'extrémisme religieux.
Oui. Hein ?
Leur ami Abby préfère se la jouer racaille. Alors lorsque la mystérieuse inconnue qui vient d'emménager dans leur immeuble est victime d'une agression, leur destin bascule. Alors pourquoi avoir choisi vos personnages dans les quartiers ? Vous aviez envie de vous rapprocher de la réalité des gens qui est, pour la majorité, loin des beaux quartiers ?
Oui, je reviens juste sur le titre avant de vous répondre. C'est que Fatum, c'est la prononciation française. Et Fatum, c'est la prononciation latine.
D'accord.
Alors, je vous le dis parce qu'il y en a qui préfèrent Fatum, il y en a qui préfèrent Fatum.
Oui, on pourrait se tromper, mais non.
Voilà. Donc, effectivement, fatalité. En fait, je ne les ai pas vraiment choisis, ces jeunes. C'est vrai que j'avais travaillé beaucoup avec des élèves de CAP, dans différents lycées. Et c'est vrai que ces jeunes se sont plutôt imposés à moi, plutôt que l'inverse. Ces jeunes de quartier populaire avec qui j'ai, puisque les CAP c'est souvent des jeunes de quartier populaire avec qui j'avais travaillé, je les avais beaucoup écoutés. D'ailleurs, j'ai sorti un recueil de portraits aussi de ceux du CAP aux éditions du Poutan. Je les avais beaucoup écoutés, j'avais noté aussi leur façon de parler, de s'exprimer. J'avais eu la chance de discuter, d'avoir des discussions assez poussées avec certains d'entre eux. voilà, qui m'ont, pour connaître leurs opinions. Enfin, c'est eux qui venaient me parler. Et voilà, je crois qu'ils sont, revenus là par un biais détourné, puisqu'au départ, je n'avais pas prévu forcément d'écrire sur eux. Mais ils sont apparus et moi, je dis toujours, quand quelque chose apparaît, il faut le prendre. il faut pas le mettre de côté. De toute façon, ça reviendra. Donc, j'ai fait avec. J'ai fait avec ces jeunes et je me suis attachée à eux au fil de l'écriture.
Mmh. Alors, avec Fatum ou Fatoum, hein, vous avez mis en scène donc, des gens ordinaires dans des habitations ordinaires. Vous trouvez qu'eux aussi ont droit à leur histoire, ont droit aussi de faire partie de notre histoire, que finalement, on en parle très peu et puis souvent en mal.
Disons qu'il y a beaucoup de clichés à propos de ces jeunes. Donc, si le livre peut lever certains clichés, c'est pas mal aussi. Ouais. Après, ils font partie de notre histoire, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on veuille les ignorer ou qu'on veuille les intégrer ou quoi que ce soit. Ils sont là, ils existent, ils ont des rêves, ils ont des angoisses, ils ont des doutes. Parfois, voilà, les réactions des adultes peuvent faire basculer, je dis, du bon ou du côté obscur de la force ou du bon côté. Donc, je pense que c'est très important les réactions qu'on a envers eux, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on s'enferme vite dans l'image qu'on nous donne de nous quelque part. Oui, ils sont importants à prendre en compte et il faut pas en avoir peur. Il faut comme avec tout le monde, plutôt que d'avoir peur et de critiquer, de haïr, il vaut mieux essayer de discuter avec eux, d'échanger. Et ils sont très chouettes aussi.
Alors, avec Fatum, vous faites aussi la part belle à la place de la femme dans ces quartiers où elles font tout, hein, et où l'homme est souvent absent lorsqu'il s'agit de s'occuper d'un foyer, hein, quand il n'est pas absent tout court. Sans elles, ces femmes, à quoi ressembleraient ces quartiers ?
Ça, je ne sais pas vous répondre, mais c'est vrai que... Après, il n'y a pas que dans les quartiers où les,
oui, c'est vrai.
Où les femmes sont souvent essentielles. Non, mais il y a des hommes très bien, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, mais c'est vrai qu'elles se battent en tant que mère, en tant que femme et en tant que mère, voilà, pour que leurs enfants survivent, mangent, pour y arriver tout simplement. Et puis, c'est vrai que... Souvent, elles ont des travaux précaires, des boulots précaires. Mais ça, c'est beaucoup le sort réservé aux femmes qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Et puis, il y a aussi celles qui sont d'origine étrangère, qui ne travaillent pas, qui ne maîtrisent pas très bien la langue. Ce n'est pas toujours facile non plus pour elles de s'intégrer.
Ouais, on parle de métier du lien. Elles ont toute leur place dans ces métiers du lien et elles ne sont pas forcément reconnues à leur juste valeur.
En tout cas, oui, tous ces boulots-là ne sont pas reconnus, je pense, à leur juste valeur et ne sont pas rémunérés comme il le faudrait.
Ouais. Alors, Fatoum parle aussi de la place du livre dans des foyers où il est rarement présent, où la place de la culture et d'éducation est réduite à sa portion congrue. Alors, pourquoi le livre fait autant peur dans ces quartiers ?
Moi, j'ai vécu tout un pan de ma vie avec mon ex-mari dans un milieu paysan-ouvrier, où le livre faisait très peur. Je me rappelle, j'essayais de poursuivre des études. C'était très difficile, parce que rien que de me voir avec un livre, ça suscitait la critique, en fait. Voilà, en gros, entre guillemets, je me la pétais, parce que j'étais avec un livre. Et puis, j'ai appauvri mon vocabulaire, exprès. Pour pas être stigmatisée par rapport à ça. Par exemple, le mot stigmatisé, je ne l'aurais pas employé, pour vous donner un exemple. Ouais. Donc, je pense que, comme tout ce qu'on connaît mal, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas, le livre fait peur. Puis le livre, c'est aussi, la liberté. On ne sait pas, par rapport à la... Enfin, quand je pense à Soane, qui est un des personnages du livre, par rapport à la religion... le livre, forcément, c'est quelque chose de subversif. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Voilà, il y a le côté subversif du livre, ouais, à part un pour certaines religions, mais ça peut être un autre pour d'autres religions. Et effectivement, le livre peut faire peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut trouver dans un livre.
Oui, ou peut-être, on sait justement ce qu'on peut y trouver et on n'a pas envie de trouver, justement. Dans un fantôme, il y a une lueur aussi, une lueur d'espoir avec Samia, 15 ans, qui rêve en secret de devenir écrivaine et qui emprunte chaque semaine des ouvrages à sa voisine, Madame Henri. surnommée la femme au livre. Vous en avez rencontré, vous, des Samia et puis des Madame Henri?
Alors, j'ai peut-être pas rencontré tout à fait Samia et Madame Henri, mais je pense qu'effectivement, je me suis beaucoup identifiée à Samia, puisque moi, je rêvais de cet univers empli de livres. Et puis, moi, j'ai vécu à Toulon, à Brignoles, dans le Var, d'une population très variée, avec des personnes qui venaient d'Espagne, d'Italie, d'Algérie, de Turquie. J'ai toujours côtoyé des gens de toutes les cultures. Et c'est vrai que de temps en temps, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas dans un milieu où on aime lire et qui développe une passion pour la littérature. Donc voilà, c'est peut-être aussi des souvenirs d'enfance qui sont remontés. Je n'ai pas rencontré Madame Henri, je l'ai rencontrée juste dans mon écriture.
Vous pensez qu'il y en a, y avait, ça existait des Madame Henri?
Oh, je pense que ouais. je pense que du moment qu'on l'écrit, c'est que quelque part, ça doit exister sûrement.
Ouais. Dans vos ateliers d'écriture, vous en avez rencontré des Samia?
Dans mes ateliers d'écriture, je ne connais pas suffisamment les personnes pour savoir si elles ressemblent à Samia, mais effectivement, il y a vraiment ce que j'aime beaucoup dans les ateliers d'écriture, c'est très démocratique. Il y a des gens de toutes origines, de toutes cultures, de tous âges, de tous milieux sociaux qui viennent, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Et effectivement, souvent, ils nourrissent une passion pour l'écriture, pour la lecture et pour l'écriture. Ouais. Mmh.
Avec Samia, vous aviez aussi envie de montrer que même dans ces quartiers que l'on dit défavorisés, on peut s'en sortir et montrer une autre image, une image d'espoir.
Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais je pense vraiment qu'on peut s'en sortir. Alors pas forcément, là, Samia, c'est par le biais de la lecture, mais ça peut être par d'autres biais. Mais ces jeunes, ils sont comme tous les autres jeunes, ils ont plein de potentiel. Bon, mais il suffit de savoir les débusquer, les mettre en valeur.
Alors, comment avez-vous justement construit votre livre? Vous saviez dès le départ comment il finirait ou...
Non, pas, non, pas tout à fait. J'ai toujours une idée vague de la fin, mais qui se précise au fil de l'écriture. Et je laisse souvent les personnages me dicter la fin, parce que je trouve qu'elle est toujours bien meilleure que ce que moi j'avais imaginé. Et là, j'ai eu l'impression que c'est Samia qui me guidait. Voilà, qui me guidait sur le... Et donc, aux deux tiers du livre, j'ai à peu près su comment ça se terminerait. Mais effectivement, il y avait pas mal d'inconnus encore quand j'étais aux deux tiers du livre.
Ah ouais. Il aurait pu très bien ne jamais se terminer, ce livre.
Non. Je préfère qu'il soit terminé, mais il aurait pu se terminer autrement. Effectivement.
Autrement. Ouais,
il aurait pu se terminer autrement. Ouais.
Alors, pour écrire Fatoum, vous avez pioché dans votre... vécu et votre expérience, notamment professionnelle, à travers vos ateliers d'écriture et vos différentes rencontres qui ont donné lieu à des livres?
De toute façon, je pense que pour écrire, on pioche toujours en soi. Alors que ce soit via des rencontres, ouais, via des choses qu'on a perçues, entendues, vues dans des films, et des documentaires qu'on a entendus. Voilà, ça ne vient pas du ciel. Hein, faut...
Il y a forcément l'autobiographie de...
Autobiographie dans le sens où ça vient de soi. Après, ce n'est pas des choses que j'ai vécues moi-même. Il y a plein de choses que j'ai décrites que je n'ai jamais vécues. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, j'animais des ateliers d'écriture en parallèle avec une psychogénéalogiste. Hein, qui revient sur le passé des personnes par rapport aux secrets de famille, aux non-dits, aux comportements récurrents inexpliqués. Et je pense que j'ai absorbé aussi, là je parle par rapport à la femme au livre, pas mal de choses de ce qu'ont dit ces personnes-là et qui sont ressorties aussi dans ce livre.
Alors dans Fatoum, le langage des personnages est souvent fleuri, hein ? Que ce soit le verlan ou celui qu'utilisent les jeunes des quartiers. Vous étiez à l'aise, vous, avec l'écriture des dialogues? Qui vous a aidé à les écrire?
Alors, moi, j'étais à l'aise parce que, je vous dis, pendant un an, j'ai côtoyé des élèves de ces quartiers-là et que je les ai vraiment écoutés, non seulement pendant les cours, mais pendant les intercours, et que j'ai pris des notes aussi. Des fois, je leur ai demandé des traductions parce que je comprenais pas. C'est un jargon, hein. C'est un jargon comme tous les jargons, est destiné à ne pas trop être compris par les autres. Mais ça m'intéressait beaucoup. Et puis, moi, j'aime beaucoup travailler sur les registres de langage. Je trouve que toute langue a son charme, son inventivité. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu marier, on va dire, trois registres de langage. Langage plus poétique, travaillé, soutenu pour les paragraphes qui concernent... Qui concerne la fillette du début, dont on va découvrir qui elle est, un vocabulaire médian pour le récit, pour ce qui est du récit, et dans les dialogues, et ben, faire dialoguer ces jeunes comme moi je les ai entendus avec l'argot des cités.
Mmh. Alors, les mots qu'utilisent ces jeunes des quartiers vous choquent, vous gênent ? Ce ne sont pas vos mots ?
C'est pas les mots que moi j'ai eu l'habitude d'employer, mais mon père, qui était d'origine parisienne, il avait un argot de titi parisien à l'époque. Maintenant ça fait longtemps qu'il est dans le sud, donc il l'a oublié. Mais non, ça me gêne pas. Au contraire, moi ça m'intéresse toujours. Ça m'intéresse toujours de voir ce que les pourquoi tel mot, comme par exemple le mot bouffon qui est revenu à la mode, alors que voilà, c'est un très vieux terme en fait. Donc la langue, elle est vivante, elle est pas figée. Et c'est super de voir ce qu'on peut en faire, comment les gens se l'approprient et la transforment. Pour moi, c'est comme des musiques différentes. Mais pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ça. D'autant plus que ces jeunes-là, souvent, ils maîtrisent ce langage-là et ils maîtrisent aussi le langage, on va dire, commun à tous. Donc, c'est aussi une bonne gymnastique, je trouve.
Ouais. Puis... Vous avez expliqué les mots aussi, c'est bien.
Oui, parce que certains, pour comprendre, c'est pas évident, effectivement.
Alors, Fatum est un roman noir. On est plus proche du drame que du polar.
Oui, en fait, oui.
L'héroïne n'est pas une policière. Elle aurait pu l'être, en tout cas, elle en a les capacités.
Oui, peut-être. Mais en fait, moi, je fais bien le distinguo entre polar et roman noir, parce qu'il a pu m'être reproché, voilà, Fatum n'est pas un polar, ou Fatum. Non, c'est pas un polar, c'est un roman noir. Et un roman noir, c'est plutôt un roman d'atmosphère, avec ancré dans le social, on va dire. Mmh. Voilà, ancré dans le social. Donc, c'est vraiment la définition du roman noir. Et moi, j'étais une grande fan de Thierry Jonquet, de Jean-Claude Izot, qui ont écrit des romans noirs. Plus, il y a d'autres écrivains qui écrivent des romans qui ne sont pas étiquetés romans noirs, mais qu'on pourrait sans problème qualifier de romans noirs. Donc, moi, c'est vrai que même s'il y a une enquête, le livre n'est pas centré sur l'enquête. Voilà, il est plutôt centré sur la vie des personnages, leur évolution, leurs relations. Et tout ça va emmener vers quelque chose de fatal, malheureusement.
Ouais. Alors, Fatum n'est-il pas aussi un livre d'espoir sur ces quartiers, sur ces filles qui veulent que les choses changent ?
J'espère, parce qu'effectivement, souvent, c'est les femmes qui sont brimées en premier lieu, mais souvent, le changement vient des femmes aussi. Mmh. Parce qu'il faut le dire, elles sont courageuses, elles se battent, elles essayent de faire avancer les choses. Effectivement, j'espère que... C'est pour ça qu'on m'a dit, c'est pas un roman noir, c'est un roman gris, on m'a dit, qui va de gris foncé à gris clair, ça dépend des fois. C'est ce que des lecteurs ou des lectrices m'ont dit. Et oui, j'espère que des choses changeront, puisque c'est toujours les femmes qui sont impactées en premier lieu quand la société régresse.
Mmh. Alors, quels sont justement, vous parliez de retours, les premiers retours, que ce soit des médias, des blogueurs, des lecteurs, des lectrices
Alors, bon, j'avoue que sur les blogueurs, réseaux sociaux, j'ai eu quand même des bons retours. J'ai eu, on va dire, 90% de bons ou très bons retours de lectrices et lecteurs. Voir des gens qui avaient lu le livre, qui sont revenus l'acheter pour l'offrir à plusieurs personnes. Ce qui m'a fait vraiment très plaisir, bien entendu. Après, j'ai des gens qui sont quand même gênés. Alors, ça peut être à différents niveaux. Il y en a qui sont gênés par le langage argotique des jeunes, par ces milieux-là, qu'ils connaissent mal ou qu'ils n'ont pas envie de connaître. Et il y a d'autres personnes qui vont être gênées par l'écriture plus travaillée, plus poétique, des passages en italique, hein, puisque voilà, comme il y a deux histoires parallèles. Donc après, bon, ça, je peux qu'acquiescer, et c'est leur droit, hein, le plus strict. Mais je dois dire que j'ai quand même eu majoritairement des bons retours.
Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours des gens qui habitent les quartiers que vous décrivez ?
Non, parce que... je ne pense pas que c'est été lu dans les quartiers. Alors, On a un projet de travailler avec une professeure de français l'an prochain qui ferait lire ce livre à tous ses élèves. Donc, voilà, parmi ses élèves, il y aurait sûrement des élèves des quartiers. Et ça, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir le retour des jeunes, en fait.
Mmh, ouais. Donc, envisagez-vous une suite à Fatom ou vous partez sur toute autre chose? L'histoire de Samia n'est pas terminée.
En tout cas, pour moi, cette tranche de vie-là, qui est quand même très, très importante et impactante dans sa vie, elle est terminée. Et non, je partirai sur un nouveau livre avec une histoire tout à fait différente.
D'accord. Alors, aux éditions du Caïman, il y a plusieurs collections, après celle des romans noirs. Pour laquelle aimeriez-vous être publié? Alors, Polar en France, Polar du Monde, Thriller, Caïman Jeunesse?
Alors, je verrais bien Thriller, mais Thriller psychologique, pas Thriller très noir qui fait très peur. Alors, je ne sais pas exactement si ça peut... Mais voilà, quelque chose d'un peu moins social, mais d'un peu plus psychologique, on va dire.
D'accord. Alors, quel regard, justement, portez-vous sur l'activité du livre en France?
Ouh là, ça, c'est une vaste question. Ouais. Je ne sais pas trop comment vous répondre. Je suis contente que le livre soit défendu avec le prix unique. Moi, je suis une grande consommatrice de livres. Je trouve qu'il faut vraiment défendre les librairies indépendantes. D'ailleurs, c'est bientôt la fête de la librairie indépendante, oui. Je crois, le 15, samedi 15. Donc, j'essaie au maximum d'aller commander ou acheter mes livres en librairie. On dit que les gens lisent peu, mais moi je trouve que les gens lisent beaucoup encore. Voilà, je ne sais pas si je me trompe. Après,
Il y en a sûrement qui abandonnent et puis d'autres qui la redécouvrent 40 ans après ou 30 ans après. Ouais. Donc, dans le monde du livre, moi je trouve qu'on voit quand même toujours les mêmes. Heureusement, il reste des libraires, vous disiez des libraires indépendants et des lieux comme les bibliothèques, les médiathèques, les salons et quelques radios libres, sans oublier les réseaux sociaux. Comment faites-vous pour faire connaître vos livres et exister en tant qu'écrivaine?
Oui, alors ça, c'est encore autre chose.
Oui, c'est autre chose.
C'est autre chose. Après, l'écriture, c'est la promo, comme on dit. Donc, comme je ne suis pas encore très connue, ce n'est pas toujours facile. Alors, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui vraiment est très présent. Par exemple, il a présenté mon livre pour 3 prix littéraires et je suis très contente d'annoncer que le livre est sélectionné pour les 3 prix littéraires qui sont le prix, je peux les dire ? qui sont le prix Polar Méditerranée qui a lieu à Port-Barcarès en juin, le prix Dora Suarez qui est remis en automne et la dernière annoncée, le prix Cognac,
le prix du roman noir du festival de Cognac.
Donc là où seulement 6 livres, 6 romans noirs ou polars sont présélectionnés et sont en lice pour le prix. Donc je suis assez fière de ça et ça sera remis le 22 octobre, je crois, ce prix-là. Donc j'ai mon éditeur qui fait un vrai travail de présenté à des prix, mais aussi de diffusion. Il en parle, autour de lui. Il envoie beaucoup à des chroniqueurs, des chroniqueuses Instagram, Facebook.
Des blogueurs, des blogueuses.
Des blogueuses. Ouais, ouais. Moi, j'essaye de relayer aussi, d'être présente sur les réseaux. Ça ne fait peut-être pas tout, mais ça donne aussi une visibilité. J'essaye de multiplier les interventions. J'ai été invitée à la librairie des Marais à Villefranche avec un entretien très agréable et un échange avec le public. Je viens ici à la radio. J'ai été invitée à la librairie Mille Paresse au Pradé où j'ai été très bien reçue également. Je serai bientôt invitée à la librairie Motamo à Ans. Je serai bientôt invitée dans une galerie d'art et école de musique pour des lectures musicales autour de Fatoum et aussi un échange avec le public, c'est important. Et puis dans une bibliothèque, la bibliothèque de Mionnet le 28 avril. Et après, s'il y a des personnes qui ont lu ou qui veulent lire et qui aiment mon livre et qui veulent me recevoir, moi, je suis tout à fait prête à faire l'effort, dans la mesure de mes disponibilités et de mes moyens, de venir. Et puis, je vous remercie donc de m'inviter ici à Radio B, que je ne connaissais pas et que je découvre.
Il n'est jamais trop tard. Lorsqu'on écrit pour soi, a-t-on envie et le temps de lire les autres ?
Ah oui, moi j'ai envie de... Alors le temps, ça manque un peu, mais lire les autres, moi je me suis toujours beaucoup, beaucoup nourrie de lecture. Donc, non, je n'aimerais pas arrêter de lire. Alors, c'est vrai, quand on est plongé dans l'écriture d'un bouquin, parfois, on réduit un peu la voilure en termes de lecture. Et voilà, la pile grossit parce qu'on ne peut pas quand même s'empêcher d'acheter des livres.
La pile à lire.
Voilà, la pile à lire grossit, la pile.
Voilà. C'est un terme de spécialiste de lecture,
voilà.
Ça. La pile. Des fois, c'est une palette. Hein.
Oui, non, c'est la pile, pile à lire grossit. Mais je suis rassurée quand je vois dans ma pile à lire que j'ai plein de livres à lire. En fait, c'est quelque chose vraiment qui me rassure. Et dans notre bureau est tapissé de livres, en fait. Ouais. Voilà.
Picsou, c'était les billets de banque. Bah, vous, c'est
voilà,
les livres.
Voilà, non, c'est plutôt les livres. Ouais. Voilà.
Alors, vous êtes intervenu sur les ondes de Radio Calade pour des chroniques littéraires, mais pas que, il me semble.
Oui, il y a un petit temps. Ouais.
Donc, que vous a apporté cette expérience sur une radio libre?
Oh, j'ai beaucoup aimé. Alors là, il y a la partie animation aussi, de présenter plusieurs intervenants, d'animer les échanges. Non, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Ouais, vraiment, c'est très, très agréable.
Alors, faire de la radio, c'était forcément un rêve ou c'est une suite logique à tout ce que vous avez entrepris depuis le début de vos aventures liées à l'écriture?
Bon, je ne sais pas si c'est une suite logique. En tout cas, moi, j'aime bien.
Une suite logique. Oui, j'ai dit logique, mais
ah
bon.
Oui. Ouais. En tout cas, moi, j'aime bien essayer une nouvelle chose.
Ouais.
Me dire, tiens, ça, je l'ai fait, je ne l'avais jamais fait. Donc, j'ai participé à une émission radio. Ah bien, j'ai animé une émission à la radio. Et voilà, c'est quelque chose que j'aurais fait au moins une fois dans ma vie. J'en suis très heureuse.
Non, puis c'est un lien avec l'écriture parce que.
Alors, bien sûr.
Une émission de radio, logiquement, on écrit aussi.
Ah oui, oui. Bah, si on veut écrit, faire les choses bien. On prépare, effectivement, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui, oui. Effectivement, on écrit quand même un peu bien.
Oui, oui.
Et puis surtout que je lisais aussi à chaque émission une chronique radiophonique humoristique que j'avais écrite pour l'occasion.
Alors, on parle de radio, il existe les livres audio. Alors, comment appréhendez-vous ce format de lecture?
Bah, je pense que ça peut être très intéressant pour certaines personnes. Moi, je ne suis pas trop une écouteuse de textes. Je préfère les lire et me fabriquer mes propres sons et mes propres images. Mais je me dis que ça correspond peut-être mieux à d'autres personnes qui sont plus auditives. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, il y a eu Sab en live qui a fait une lecture du premier chapitre de mon livre. Voilà. Et je trouvais ça très intéressant. Ouais. Et c'est très émouvant d'entendre son propre livre lu par quelqu'un d'autre.
Ouais. Vous auriez envie que Fatum sorte en livre audio?
Ah bah si c'était possible, oui, j'aurais même envie qu'il soit adapté en film ou en série.
vous verriez forcément une voix féminine à la lecture de Fatum?
Non, pas forcément. Enfin là, la voix féminine de Sabrina, là, de Sab en live, me convenait très bien, mais pas forcément une voix féminine, non.
Ouais. Vous auriez envie d'en enregistrer peut-être alors? Que ce soit vos livres ou ceux des autres?
Oui, alors après, voilà, je ne sais pas, moi je ne suis quand même pas comédienne, je ne suis quand même pas... Je pense que c'est quand même une compétence à part entière.
Vous avez fait du théâtre quand même?
J'ai fait du théâtre, mais en amateur, en amatrice.
Ah bah amateur, c'est moi amateur. Hein.
Bah oui, mais voilà. Oui, mais je pense que c'est une vraie compétence, la lecture à voix haute, et que ça réclamerait en tout cas plus d'expérience, de formation, d'apprentissage.
Oui. Des fois, quand on est en écoute certains, c'est dommage. Oui, ça abîme des fois les livres.
Ah oui.
Ouais. Donc, écrire pour vous est étroitement lié aux rencontres. Alors, même si on écrit pour soi, vous écrivez aussi pour les autres, mais aussi avec les autres et pour tous les public, cette notion de partage et d'échange, elle est en vous, ça.
Elle est importante. Je pense, puisque moi j'ai toujours... j'ai deux parts en moi, le côté un peu solitaire, sauvage, qui aime être seul, et puis après le côté effectivement mise en lien. Hein, le lien, c'est important pour moi, créer du lien, mais créer un lien qui a du sens, quoi, voilà, construire une société ou une micro-société qui a du sens et où chacun se sent écouté, respecté, avec de la bienveillance. Ça, c'est important pour moi, ouais.
Vous pourriez n'écrire que pour vous?
Bon, je l'ai eu fait, mais c'est un peu... Il y a un côté frustrant. Il y a un côté frustrant puisque moi, j'aime cette idée de partager. Puis c'est aussi ma vision de la société que j'ai envie de donner à voir ou ma vision de certaines situations. Donc, ne serait-ce que pour comprendre comment les autres le ressentent. Voilà, c'est une façon de m'exposer aussi, de dire des choses de moi aussi, je pense.
Est-ce qu'il y a des publics avec qui vous n'avez pas collaboré et avec qui vous aimeriez travailler? Les mots.
J'ai eu des publics très variés, moi, très variés, en tout cas lors des ateliers d'écriture.
On n'en fait jamais le tour.
Sûrement pas, mais je suis intervenue avec des personnes en situation de handicap, je suis intervenue dans les hôpitaux, je suis intervenue dans des centres sociaux, je suis intervenue dans des entreprises, je suis intervenue dans mes ateliers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens très très différents, voilà, qui viennent de milieux très différents.
Avec des sportifs, par exemple ?
Pourquoi pas. Oui, je sais pas.
Après, toi, la petite bête. Là.
Il faut qu'il y ait une demande et un projet cohérent et pertinent. Hein. Mais pourquoi pas ? Moi, j'ai aucun. Voilà, je suis intervenue en prison, en maison d'arrêt plusieurs fois avec des majeurs, avec des mineurs. J'ai aucun a priori négatif du moment qu'il y a un projet qui tienne la route.
Pour vous, l'écrivain est un artisan ?
Oui.
On n'écrit pas un livre comme on produit à la chaîne. On a parfois l'impression que pour certains, c'est plus un business, une industrie. Écrire, ça doit rester un art.
Art, artisanat, la frontière, elle est toujours poreuse. Ouais. Et quand je dis écrire, c'est de l'artisanat, c'est pour aussi qu'on s'enlève cette idée de la tête que voilà, le talent vient du ciel, est inné, certains l'ont, d'autres l'auront jamais. Les grands écrivains, ils disent, écrire, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Ou pareil avec le talent et le travail. Hein, 10% de talent et 90% de travail. C'est quand même du travail. Il faut se mettre à sa table. Faut tordre les phrases. Il faut accepter que rien ne vienne, que ça ne nous plaise pas. Il faut accepter d'être dans le doute. Quand on écrit un roman, il y a un aspect... on est dans la construction, donc c'est comme un mur, il faut que ça tienne debout. Voilà, il faut qu'on fasse le deuil de certaines parties pour en privilégier d'autres, même si ça peut être frustrant parfois. Donc il y a vraiment cet aspect artisanal de l'écriture. Pas que, forcément, il y a aussi un côté créatif, artistique, mais ce côté artisanal, il est là comme dans d'autres pratiques artistiques.
Ouais. Vous lisez pour vivre d'autres vies, pour comprendre la vôtre et approcher la nôtre. Qu'avez-vous appris sur vous et sur nous ?
Je pense que j'apprends continuellement sur moi, sur vous, sur la société, en m'imprégnant et en écrivant. Écrire, c'est aussi un peu une façon de digérer, hein, de digérer le monde et de le redonner à voir aux autres selon ma version. Je sais pas vous dire ce que j'ai appris vraiment. Je pense que j'apprends tous les jours, tout le temps, que c'est quelque chose en perpétuel mouvement. Mais c'est ma manière d'être présente aux autres aussi, d'écrire.
Le roman commence et se termine par cette phrase, le fatum. Je suis né du néant dans une pièce sombre. Ça pourrait être autobiographique.
Non, moi je pense que je suis née dans une clinique à Paris 18e, tout à fait, avec des néons blancs horribles, tout à fait, de façon tout à fait classique, mais ça pourrait être une phrase autobiographique pour quelqu'un sûrement, dans ce monde sûrement, mais pas pour moi.
Eh bien, merci Sylvie Calais d'avoir accepté l'invitation de Radio B.
Merci pour votre invitation.
Rappelons que vous avez sorti donc le 12 janvier 2023 aux éditions du Caïman votre nouveau roman Fatum. Mm-hmm. Comment peut-on se le procurer, sans oublier vos autres publications ?
On peut se le procurer. Il est très bien diffusé, donc il est normalement disponible en librairie ou très accessible facilement sur commande. Et après, il est sur tous les sites dédiés aux livres. Mais comme je vous l'ai dit, si vous pouvez privilégier la librairie. Donc voilà, celui-là, je pense que Fatum ou Fatum, vous pouvez l'avoir très facilement. Et c'est Pollen, le diffuseur c'est Pollen, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Et après, pour les autres livres, ça dépend des livres, c'est un petit peu plus compliqué. Les éditions du Poutan, c'est Villefranche-sur-Saône, il doit être distribué dans la région. Et puis les Presses du Midi, c'est distribué assez largement aussi, mais ça commence à dater, donc certains romans ne sont plus réédités.
D'accord. On vous retrouve sur Internet via votre site atout-écriture.fr et celui de votre association Écriture et Papyrus, écriture-papyrus.com, ainsi que sur les réseaux sociaux, bien évidemment.
Bien évidemment.
Hein ? On vous retrouve prochainement dans la région proche, que ce soit dans une librairie, un salon, une médiathèque ou sur les ondes de Radio Calade.
Oui, sur les ondes de Radio Calade le 5 mai,
d'accord.
Normalement. Voilà.
D'accord.
Et puis dans l'Ain, à la bibliothèque de Mionnet le 28 avril, et sinon à Polémio-Mont-d'Or, à côté de Lyon, le 27 avril à 19h30.
Bien. Sylvie Calais, bonnes écritures avec un S. Hein, bah oui.
Avec un S. Hein,
bonne lecture avec un S aussi.
Voilà, comme Sylvie.
Voilà. Et à bientôt sur Radio B.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.